Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Notre-Dame de la Paix, soyez les bienvenus dans cette tranche matinale d'antenne pour notre enseignement spirituel. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a permis pour nous cette année de vivre ce temps pascal dans des moments, dans une disposition particulière, celle du confinement qui va nous permettre d'aller plus loin au tréfonds de notre âme et de nous confiner dans le cœur de Dieu. Soyez les bienvenus, chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis auditeurs, auditrices. Vous êtes bien sur Radio Notre-Dame de la Paix, la radio de la communauté des paroisses des Boucles de la Souffelle. Que Dieu vous bénisse. Nous allons consacrer ce temps d'antenne à notre très sainte mère, la patronne de notre paroisse et de notre radio. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent pour cette tranche de temps que nous allons continuer avec la méditation des mystères de la Semaine Sainte que nous avons commencé hier en parlant du type de Messie que Dieu est en fait révélé dans la personne de notre Seigneur Jésus. Nous avons dit hier que le peuple d'Israël attendait un Messie triomphant et puissant et que son histoire particulière, marquée par de nombreuses déportations, de très très grandes souffrances, l'avait conduit justement à penser que Dieu viendrait comme quelqu'un de particulièrement extraordinairement puissant. Certains pensaient à un chef guerrier qui conduirait le peuple dans une armée farouche qui mettrait hors du territoire de la Palestine l'ennemi romain. Et puis certains pensaient aussi que ce serait plus quelqu'un de triomphant dans l'ordre d'un règne terrestre. Et nous avons dit que dans les disciples de Jésus, il y en avait plusieurs qui pensaient cela. Et nous avons vu qu'il y avait chez Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée, quelque chose de particulièrement fort dans ce sens-là. Et ils ont donc pensé à un Dieu qui viendrait vraiment comme un leader, qui marquerait son territoire et extirperait avec force, autorité et puissance tous ceux qui travailleraient à faire souffrir le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et au fur et à mesure que les péripéties douloureuses de l'histoire d'Israël se mettaient en branle, on avait effectivement des conceptions nouvelles du Messie qui s'accordaient, qui s'accrochaient justement à ces péripéties douloureuses. Dieu, quand viendras-tu nous délivrer? Quand viendras-tu nous chercher? Et on peut voir des échos dans les différents psaumes, le psaume de David au psaume 87. Seigneur, mon Dieu et mon salut, en cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Seigneur, qui parlera de ton amour dans la tombe de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur, dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'endurer tes fléaux. Sur moi ont déferlé ta colère. Tes effrois se sont ligués contre moi. Nous sommes ici au cœur, frères et sœurs, d'une plainte d'un peuple qui cherche désespérément un sauveur. une figure de Messie qui ravage l'ennemi par des châtiments et des punitions. Et nous avons dit que ce n'était pas ce Dieu-là qu'avait annoncé d'une part Isaïe et de l'autre Ézéchiel. Isaïe annonçait un Dieu qui restaurerait la paix, qui restaurerait la justice. Et Isaïe au chapitre 11, nous l'avons dit, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété. Et donc ce Dieu-là, ce Messie serait plutôt quelqu'un qui viendrait avec une incroyable et infinie douceur et qui se laisserait conduire à l'abattoir comme un agneau et qui se laisserait tirer la barbe. On cracherait sur son visage. Devant ce visage, on détournerait la face, simplement parce que c'est un visage défiguré. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre Dieu en qui nous croyons, un Dieu défiguré, un Dieu défiguré. C'est Jésus, frères et sœurs, qui vient épouser toutes les défigurations de notre histoire, qui vient épouser toutes les blessures de notre histoire, et qui s'est transformé, nous l'avons dit hier, en une immense plaie pour que nous venions trouver la guérison dans ses propres blessures. Selon Isaïe, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frères et sœurs, et il voulait, de ce par cela, nous dit une seule chose, si je suis venu te guérir en prenant la condition d'un serviteur souffrant, c'est pour que tu participes à ma propre nature, que tu épouses ma propre prérogative divine, que tu entres au tréfonds de mon cœur et que tu y puises toutes les ressources d'amour que j'ai pour toi de toute éternité. Et nous avons dit, frères et sœurs bien-aimés, et que c'était un Dieu d'amour, essentiellement d'amour, et que sa toute-puissance se manifestait du fait de sa faiblesse. C'est parce qu'il était faible qu'il est devenu en fait tout-puissant. Nous ne croyons donc pas en un Dieu, nous l'avons dit hier, qui est continuellement en train de nous épier pour voir si on s'écarte d'un iota de ses lois et de ses commandements et qui nous châtie avec une violence divine. Dieu ne châtie personne, frères et sœurs bien-aimés. Et nous avons profité pour dire que ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas un châtiment de Dieu. Dieu ne peut pas imaginer que Dieu, du haut de son ciel, se réunit, c'est les anges et les saints, la Vierge Marie et son fils Jésus dans la communion du Saint-Esprit pour fabriquer le Covid, pour fabriquer un virus qu'il jetterait sur la terre et qui ravagerait toute la planète simplement parce qu'il veut que les gens reviennent à lui. Nous ne pouvons pas imaginer un Dieu qui, dans son laboratoire, fabrique les bactéries et les virus pour injecter dans l'humanité. Mais c'est tout simplement inconcevable, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout simplement impossible. Nous ne pouvons pas croire en un Dieu comme celui-là. Dieu est essentiellement amour. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, que nous soyons croyants ou pas, nous sommes atteints par ce virus. Que nous soyons musulmans, chrétiens, bouddhistes ou tout ce que nous voulons, non-croyants, nous, le virus nous atteint. Haut gradé ou pauvre, le virus nous atteint. Et chrétien ou non chrétien, le virus nous atteint. Pieux ou non pieux, le virus nous atteint. Nous sommes tous embarqués dans la même aventure. Frères et sœurs bien-aimés, l'histoire est marquée du fait de sa finitude et de la fragilité qui le constitue fondamentalement par le péché. Et ce faisant, l'homme, tant qu'il n'est pas retourné à Dieu, tant qu'il n'a pas revu la place, retrouvé la place, le rang pour lequel il a été créé, il ne pourra pas vivre le ciel sur la terre. C'est pourquoi notre humanité est en souffrance. Notre humanité est en souffrance parce qu'elle attend, comme dit saint Paul, la révélation des fils de Dieu. Et nous sommes, frères et sœurs, bien-aimés dans des épreuves que nous traversons, remplis de confiance, simplement, frères et sœurs, parce que Dieu veut nous fortifier et nous permettre de communier encore plus intimement à lui et d'être plus solidaires les uns les autres. Et Dieu se sert, peut se servir de cette épreuve pour un plus grand bien, puisqu'il a le dernier mot de l'histoire, et le dernier mot de l'histoire, frères et sœurs, c'est l'amour. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Nous avons dit, frères et sœurs, que si Jésus est devenu ce qu'il est, le petit agneau qui porte sur lui nos péchés, qui devient une plaie vivante, c'est bien parce qu'il veut que nous soyons, nous aussi, semblables à lui. Il veut que nous soyons des hosties vivantes. Et nous avons dit qu'il ne voulait pas être dans des tabernacles fermés des églises. Il voulait prendre place dans les cœurs de chaque homme, de chaque être vivant, et faire de chaque être vivant, frères et sœurs bien-aimés, un véritable lui. Il nous appelle à être comme lui, ou non seulement comme lui, à participer avec tout ce qu'il nous a donné et manifesté dans la plénitude de son amour. Être véritablement fils de Dieu, co-héritier de Dieu, héritier de son Fils. Frères et sœurs, nous sommes là au cœur de ce mystère d'amour que la Semaine Sainte nous permettra de méditer. Aujourd'hui, ayant vu qui était le Fils, celui en qui nous croyons notre Sauveur, le Fils de Dieu, la figure véritable de ce Fils de Dieu, qui est dans le serviteur souffrant que seuls les Anaouim pouvaient, eux, comprendre et méditer, les pauvres de Yahvé, des gens simples qui n'avaient rien, nous allons aujourd'hui continuer avec justement son chemin qui va le conduire effectivement comme un agneau. Nous approchons bientôt du Vendredi Saint et c'est pour nous de comprendre les trésors cachés dans le mystère de la croix et d'entrer progressivement, étape par étape, dans ce sublime moment où Dieu va ouvrir son cœur et déverser ses grâces à profusion sur l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés d'amour, soyez les bienvenus sur cette radio, la radio Notre-Dame de la Paix. Jésus veut que nous soyons un autre lui, que nous soyons son propre visage. Il veut regarder et voir dans chacun de nos visages son propre visage. Il veut regarder et voir dans chacun de nos cœurs son propre cœur. Il veut regarder et voir dans chacune de nos âmes sa propre âme. En fait, il cherche son visage. Il cherche son visage dans nos cœurs, dans nos cœurs. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, soyez bénis.
Le corps de Christ, vous êtes le sang de Christ, vous êtes la joie de Christ, alors qu'avez-vous fait de lui?
Je cherche
je cherche le visage du Seigneur, je cherche.
Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus pour ceux qui nous rejoignent sur cette tranche d'antenne où nous allons continuer notre méditation du mystère de la passion de notre très saint Seigneur que nous avons commencé hier en parlant justement de ce prophète Isaïe qui avait tout décrit de ce Jésus que nous avons, nous aujourd'hui, comme Sauveur et Seigneur. Et un rameau sortira de la souche de Jessé, il a dit, et celui reposera l'Esprit du Seigneur, nous l'avons dit. Donc c'est Dieu. Le Messie que l'on attendait, que le peuple attendait, n'était rien d'autre que Dieu lui-même. En fait, Dieu venait prendre possession de tout le peuple, et à travers tout le peuple, tout le cœur, tous les cœurs. L'essentiel est là. Au fond, au moment où on attend un Messie triomphal pour une tentative de libération temporelle et politique, Dieu lui vient dans une autre optique, introduit l'homme dans sa propre vie, dans sa nature divine. C'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, qu'il va être celui-là que personne ne pourra soupçonner être. Voilà, le plus au-dessus de toute la création. C'est pourquoi il marche nu-pied dans les rues de Nazareth de Galilée. C'est pourquoi il avance comme un fugitif vers Jérusalem. C'est pourquoi il se laisse conduire sans résistance dans toutes sortes de tribulations. C'est pourquoi il se laisse flageller. C'est pourquoi il va verser son sang jusqu'à la dernière goutte sur la croix en poussant le dernier cri. Entre tes mains, je remets mon esprit, Seigneur. Et c'est pour cela que le mystère de la croix, c'est au cœur de c'est le mystère de la vie chrétienne en son centre. Il n'y a pas de véritable action chrétienne sans la croix. Et un saint disait que tout ce que Dieu fait est le signe de sa croix. La croix est la voie royale, le pont qui nous conduit au ciel. La croix, c'est ce qui a été mis entre l'homme, l'humanité et la divinité pour que l'homme soit capable de Dieu. La croix, c'est le pont par lequel Dieu s'est fait homme. La croix, frères et sœurs, en dépit de ce que nous pouvons croire, de ce que nous traversons aujourd'hui, n'est pas là pour nous anéantir. C'est Saint Padre Pio qui le disait, la croix est la réalité la plus forte de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Et c'est cela notre espérance. Et c'est pour cela que nous devons entrer dans cette confiance pleine que Dieu a le dernier mot de l'histoire et qu'il sera comme il a été et comme il sera toujours, frères et sœurs bien-aimés, et comme il est aujourd'hui, le maître de l'univers. C'est lui qui contrôle les situations. L'histoire lui appartient. Et quelles que soient les agitations d'une humanité marquée par son désir de s'extraire à son amour, il continuera à être Dieu. Dieu est Dieu et personne ne pourra l'empêcher. Et la croix, frères et sœurs, le mystère de l'agneau immolé, c'est le mystère de la révélation chrétienne. Et si nous avons cette pratique régulière de faire un signe de croix, c'est bien parce que nous voulons tracer sur nous la vérité de la présence de Dieu, de sa substance pleine. Et frères et sœurs, c'est pourquoi la méditation de la croix, de la passion, le chemin de croix que nous allons vivre d'une manière plus pleine et spirituelle cette année, le Vendredi Saint, c'est le lieu où nous trouvons toutes les grâces nécessaires pour continuer le combat dans cette épreuve, dans ces épreuves que nous traversons. La croix, c'est le mystère même de la manifestation de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, quand nous contemplons la croix, nous ne contemplons pas simplement la souffrance. La souffrance n'est pas l'essentiel. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Il nous a créés pour être heureux. Et la croix, si elle est manifestation de la souffrance, ce n'est que la conséquence d'un amour plus grand qui porte cette souffrance. C'est un amour infini qui s'est manifesté dans une souffrance infinie. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Voilà ce qui se passe. La croix de notre Seigneur, C'est le lieu, la capitale de l'amour. C'est le lieu où Dieu s'est donné totalement en versant son sang jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a personne, rien ni personne, qui peut équivaloir l'amour de Dieu. Personne ne pourra aimer comme Dieu aime. Et donc, personne ne pourra souffrir comme Dieu souffre. Et nous le verrons dans les jours qui viennent lorsque nous méditerons justement la passion de Jésus. La croix, c'est le lieu où Dieu, frères et sœurs bien-aimés, s'ouvre, se donne pleinement pour que nous aussi, nous soyons capables de tout lui donner. Et c'est pourquoi la croix, c'est le seul moment, le seul lieu où nous pouvons offrir le monde à Dieu. Nous pouvons ouvrir nos mains comme lui l'a ouvert ses propres mains, frères et sœurs, sur la croix, pour embrasser l'humanité. Il s'agit de poser nos propres mains dans celles de Jésus, notre Seigneur, et de lui offrir le monde. Nous offrons, nous ouvrons nos mains, frères et sœurs, pour offrir le monde à Jésus, comme lui sur la croix. Que son nom soit béni éternellement. Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains, offrons le monde à Dieu, dans son amour et par la prière.
Devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau.
Les mains ouvertes.
sœurs bien-aimées dans le Seigneur. Vous êtes sur la radio Notre-Dame de la Paix, la radio de la communauté des paroisses des Boucles de la Souffelle. Nous disions tout à l'heure que l'amour infini de Dieu nous tendait ses bras et que nous, en réponse, nous tendions nos propres bras pour accueillir cet amour. Et que la croix de notre Seigneur n'est pas la capitale de la souffrance, c'est la capitale de l'amour. Quand nous contemplons la croix, c'est Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans son amour infini pour nous que nous contemplons. Bien qu'il soit tuméfié et complètement défiguré, c'est son amour qui est ainsi exprimé. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés, et soyez consolés et soulagés, vous qui traversez des moments difficiles, qui combattez contre la maladie, qui souffrez de différentes manières, des séparations familiales, qui avez le souci justement des enfants qui sont en train de se perdre, ceux qui sont dans le désespoir de voir que leur vie n'a pratiquement eu aucun sens ou qui ne savent pas donner des sens à leur vie. Soyez consolés, frères et sœurs. Jésus est venu, il a pris tout cela, il a vu tous ces moments que nous traversons, il les a déjà assumés dans sa propre passion. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que la croix a quelque chose de particulièrement fort. C'est que Jésus est en même temps Dieu. Et Dieu, il ne peut pas vivre la souffrance que nous vivons dans les proportions simplement humaines, bien qu'il fût homme. Jésus est homme et Dieu. Il est Dieu et homme. Donc s'il vit la passion, il vit aussi dans sa dimension divine. Donc en fait, c'est Dieu qui souffre. Contrairement à ce qui peut être, ce qui est contradictoire à une logique théologique, Dieu qui est impassible, c'est-à-dire qui ne souffre pas, on ne peut pas penser qu'il porte une souffrance quelconque. Pourtant, il souffre véritablement. Dieu souffre, frères et sœurs. Mais cette souffrance n'enlève rien à sa béatitude. Il reste Dieu impassible tout en souffrant. C'est le mystère de notre Seigneur, de la puissance d'amour de notre Seigneur qui fait qu'il peut porter nos souffrances en souffrant véritablement tout en gardant la béatitude. Simplement parce que ce qu'il veut nous faire comprendre, ce qu'il veut nous communiquer cette béatitude, cette vie heureuse qu'il porte en lui-même dans la divine Trinité et qui le constitue substantiellement, consubstantiellement avec le Fils. Et ce faisant, Jésus, s'il est Dieu, il a souffert infiniment plus que ce que nous pouvons, nous, aujourd'hui, souffrir. Cela veut dire quoi? S'il est Dieu, il souffre à la dimension de Dieu, de manière infinie. Si Dieu est infini, il souffre de manière infinie. C'est pourquoi aucune souffrance n'égalera jamais celle de Jésus. Frères et sœurs, Jésus l'a expliqué de manière très claire à une âme que je me dis depuis quelques années maintenant, une âme qui est en voie de béatification, Luisa Picaretta, pour laquelle je donne souvent des retraites à Trotte. Cette âme a reçu l'écriture, de l'écriture et de la révélation que Jésus lui a faite pendant 40 ans, des enseignements précieux sur comment comprendre, comment vivre pleinement sa vie ici-bas déjà. La vie divine que Dieu veut nous communiquer est quelque chose de réel. Frères et sœurs, nous sommes créés pour être heureux. Nous sommes créés pour être heureux. Notre but, c'est d'être heureux. Et tout ce que nous pouvons vivre ici-bas, c'est dans ce seul but, dans ce seul objectif, être heureux, pleinement heureux. Et qu'on ne nous dise pas le contraire, même ceux qui, dans le désespoir, se donnent la mort, cherchent le bonheur. Et Dieu le sait, frères et sœurs, il connaît leur intention. C'est pourquoi il est là pour nous dire simplement, je veux que tu comprennes comment être heureux. Et comment est-ce qu'il explique comment être heureux à Luisa Picaretta? Il lui dit, pour être heureux, il faut simplement accueillir ma vie divine en toi. Laisse-moi vivre pleinement ma vie en toi, c'est tout ce qui compte. Si tu me laisses vivre en toi, rien ni personne ne pourra t'empêcher d'être heureux. Puisque je suis le bonheur moi-même. Ce bonheur que je te communique par ma propre vie divine en toi. Une vie divine que je te communique et à laquelle tu participes. Tu ne participes pas, tu ne rentres pas dans cette vie divine, dans la substance de ce que je suis. Tu rentres par participation. En fait, je te donne une partie de cette gloire-là que tu vis déjà dans ton humanité selon ce que tu es capable de vivre dans ton humanité. Et Jésus lui dit que si on entre dans cette plénitude de la vie, de la création, de la rédemption, de la sanctification, on a déjà le ciel ici sur terre. C'est-à-dire que Dieu a manifesté infiniment son amour dans la création, il a manifesté infiniment son amour dans la rédemption, et il manifestera infiniment son amour encore plus grandement, de manière perpétuelle et définitive dans la sanctification, quand nous serons en tout semblables à lui. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et il dit que, pour revenir à la souffrance, il dit que Jésus dit que quand il a souffert comme personne d'autre ne peut souffrir. Mesurons, frères et sœurs, les étapes de cette souffrance de Jésus. La première étape, c'est le fait qu'il soit devenu homme. Jésus qui est Dieu, devient homme. Qu'est-ce que cela veut dire, concrètement? Jésus est homme. Vous imaginez ce que ça représente? Lui qui était Dieu, refuse le rang de Dieu, du moins dans la majesté, dans le temps éternel, il rentre dans le temps limité de l'humanité, devient un homme, prend place dans les entrailles d'une femme, devient un petit fœtus, dans l'obscurité du sein de sa mère. Nous imaginons la souffrance de ce Dieu. C'est tout simplement inimaginable. Il est enfermé là-dedans pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, il est projeté à cette vie. Et qui est-ce qui vient le voir? Ce ne sont pas ceux vers qui il voulait vraiment aller pour toucher leur cœur et leur faire comprendre qu'il est véritablement le Messie et qu'il devait parler au peuple de cette messianité pour que le peuple vienne à Dieu. C'est les bergers. Nous imaginons la deuxième souffrance de Jésus. Une fois qu'il naît, il pleure. Il pleure dans les bras de sa mère, simplement parce que l'humanité lui a fermé son cœur. Et en ce moment, le toc-toc, il dit, ça c'est le mot qu'il emploie, le toc-toc, il frappe à la porte de chaque cœur, de chaque humain, lorsqu'il sort, lorsqu'il entre dans la grotte de Bethléem, et aucun humain ne lui ouvre la porte. Les cœurs sont tellement verrouillés et fermés. Et Jésus pleure, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement douloureux. Non seulement cela, il va avancer. Nous connaissons dans les évangiles tous les ennuis qu'il va avoir avec les chefs pharisiens, avec certains qui ne croyaient pas en lui, avec beaucoup de ses disciples, ainsi de suite. Jésus est dans une continuelle agonie. C'est une souffrance infinie. C'est des souffrances infinies, frères et sœurs, qui n'ont pas leur pareil ici-bas. Et plus encore, on va le mettre, suspendre, comme nous allons parler de la croix le Vendredi Saint, dont du mystère même de l'origine de la croix le Vendredi Saint. Frères et sœurs bien-aimés, je vous donne rendez-vous pour ce moment précieux où nous parlerons de comment est-ce que la croix est née et comment est-ce que ça a été pratiqué, ainsi de suite. Mais alors, pour aujourd'hui, voyons comment Jésus, justement, avance. Il est suspendu sur le bois de la croix, et sur le bois de la croix, il aura même l'impression que son père l'a abandonné. Il va crier, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Frères et sœurs, c'est terrible, c'est terrible. Et ceci pourquoi? Parce que pour chacun d'entre nous, chaque homme, depuis la création du monde jusqu'à son terme, Jésus l'a aimé. Jésus a souffert pour cet homme. Jésus a souffert pour chaque péché de cet homme, de cette femme. Donc, tous les êtres humains de la terre, depuis le premier homme, depuis Adam jusqu'au dernier qui viendra, a été porté par Jésus dans sa passion. Non seulement chaque homme, chaque être humain, mais tous les péchés de chaque homme. C'est incroyable. Ça veut dire que Jésus souffre encore aujourd'hui pour tous les péchés que nous commettons, que ce soit en pensée, en parole, par action ou par omission. C'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, inouï. C'est un grand mystère. Adam, il dit que les propres souffrances, il s'est infligé lui-même des souffrances. Pourquoi s'est-il infligé lui-même des souffrances? Ce n'était pas par masochisme. C'était simplement par amour pour la créature. Parce qu'aucune créature, dit-il, n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y aurait eu et fallait y avoir des créatures à connaître la lumière de la création, de même que pour chaque péché mortel commis par elle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il a autant souffert. Ça veut dire que Jésus souffre pour chacun de nos péchés, quels qu'ils soient. Et pour chaque homme, nous imaginons, donc à peu près on évalue à 130 milliards le nombre de gens qui ont déjà vécu sur la terre, avec ceux qui vivent aujourd'hui, 130 milliards à peu près. Nous imaginons qu'il a souffert pour les péchés de 130 milliards de personnes, chaque péché de 130 milliards de personnes, quel que soit l'âge auquel il est mort. Certains sont morts à 90 ans, d'autres, pour chaque péché en pensée, en parole et par action ou par omission, Jésus a souffert. C'est pourquoi il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus grand, il n'y a pas au-dessus de la souffrance de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Il n'y en a pas au-dessus. Il ne pourra jamais avoir de souffrance plus grande que celle de Jésus. C'est ce qu'il appelle les souffrances multipliées. Voici ce qu'il dit. Il dit, d'autre part, ses épines, ses clous et ses coups n'étaient pas comme ceux auxquels les créatures m'ont soumis pendant ma passion, lesquels n'étaient pas multipliés. En fait, quand on nous frappe une fois, on a mal et puis ça finit. Voilà, ça s'arrête là. On n'a plus mal après. Mais les souffrances de Jésus, elles, étaient multipliées du fait de sa divinité. Alors, ces souffrances étaient multipliées pour couvrir les souffrances de tout le peuple, de tous les hommes. Il dit autant d'épines que de mauvaises pensées, autant de clous que d'actions indignes, autant de coups que de plaisirs mauvais, autant de souffrances que d'offenses. Voyez, voyez, frères et sœurs. Donc, il a autant souffert pour... C'est pourquoi nous pouvons dire que le bonheur est à notre portée. Parce que Jésus a porté tout cela, frères et sœurs. Il a porté tout cela. C'était des mers de souffrances, d'épines, de clous et de coups. Devant cette passion, dit Jésus, que m'a infligé ma divinité durant tout le cours de ma vie. La passion que les créatures m'ont fait subir dans les derniers jours de ma vie ne fut qu'une ombre, qu'une image. Il dit, écoutons Jésus, frères et sœurs, voilà à quel point j'aime les âmes. Voilà à quel point j'aime les âmes. C'était pour des vies que je payais. Mes souffrances sont inconcevables pour un esprit créé. Entre ma divinité, entre dans ma divinité, vois et touche de tes mains ce que j'ai souffert. Et frères et sœurs bien-aimés, voilà l'amour infini de Dieu. Je nous en supplie. Croyons que nous sommes aimés de Jésus. Croyons de tout notre cœur que nous sommes aimés de lui. Et que, quel que soit ce que nous traversons, gardons courage. Gardons courage. Il a vaincu le monde. Le mystère de la souffrance de Jésus reste encore un mystère. Il n'a pas encore été élucidé. La seule clé d'élucidation de ce mystère, c'est son amour. C'est son amour. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes aimés. Vous comme moi, nous sommes aimés. Tu es aimé de Dieu. Ne le doute jamais. Ne fais jamais, 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 ne fais jamais, jamais d'impair. Quand il s'agit de douter un seul instant, je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu es aimé et Dieu t'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Crois de tout ton cœur que Dieu t'aime. Crois de tout ton cœur que Dieu t'aime. Crois de tout ton cœur que Dieu t'aime. Son amour pour nous est infini. Et le mystère de sa souffrance reste un mystère. Que son nom soit béni éternellement. Que son nom soit béni éternellement, frères et sœurs.
Thank you.
Bien-aimés, vous êtes sur la radio Notre-Dame de la Paix, la radio de la communauté des paroisses des Boucs de la Soufelle. Que Jésus vous bénisse infiniment. Nous disions tout à l'heure que la souffrance de Jésus était un calvaire, était un mystère, pardon. Donc, le mystère du calvaire qui est le mystère de l'amour. La clé de compréhension de la souffrance de Jésus, c'est l'amour, tout simplement. Et nous l'avons dit, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous aime et ne doutez jamais, ne commettez jamais, jamais, jamais d'impair en pensant que vous n'êtes pas aimé. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour cela que nous allons continuer notre méditation de ce matin en parlant justement de ce flot d'amour qui descend, qui coule sur l'humanité et sur nos cœurs, nos âmes, quand nous acceptons vraiment d'entrer dans le projet de Dieu en méditant sa passion. C'est pourquoi on a, dans l'Église depuis plusieurs centaines d'années, institué le chemin de croix. Nous allons en parler encore peut-être plus amplement le vendredi saint. Mais c'est très important, frères et sœurs. La messe elle-même, c'est le chemin de la croix. La messe, c'est le sacrifice de Jésus. La messe que nous célébrons, c'est Jésus qui vient s'offrir comme au temps de son incarnation sur la colline de Golgotha, où il se donne pleinement et enfin verse son corps et donne son corps et son sang en nourriture. La messe, c'est la croix. Tout le déroulement de la messe, c'est le déroulement de la vie de Jésus. Depuis, justement, le ministère public, lorsqu'il entre à Jérusalem, on en parlera, jusqu'à ce qu'il monte sur la croix au calvaire, quand le prêtre est à l'autel, lorsqu'il s'offre en offrant son corps, ainsi de suite. C'est la croix, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit que celui qui a l'habitude de méditer sa passion reçoit de très, très grandes grâces. C'est pourquoi je ne peux que nous encourager. Je le dis pour moi-même parce que ce n'est pas encore fortement ancré en moi. Il faudrait que Jésus nous donne l'occasion de comprendre combien nous sommes aimés de lui et que son amour pour nous est plus fort que tous les moments de découragement que nous pouvons avoir et nous permette donc d'entrer dans sa propre vie, la vie divine qu'il veut nous communiquer, et dans sa vie divine nous trouverons le moment de sa rédemption, de sa passion, de sa croix, et nous entrerons dans ce moment avec lui et nous remporterons des victoires avec lui. Voyez un peu. C'est cela, mes très chers frères et sœurs bien-aimés. Et il dit que celui qui médite la passion reçoit de lui, n'est-ce pas, des trésors de grâce. Et il fait naître en son cœur une source d'amour salutaire. Et il dit, voici ce qu'il dit à cette servante dont je vous ai parlé, Luisa Picarita. Il dit, celui qui pense souvent à ma passion fait naître dans son cœur comme une source salutaire. Plus l'âme s'applique à réfléchir et à méditer sur ma douloureuse passion, plus le débit de cette source augmente. Et comme les eaux qui coulent d'une fontaine sont des eaux pour tous, de même cette source de salut qui se forme dans le cœur de celui qui médite sur ma passion, sert à ma gloire, au bien personnel de cette âme et au profit de beaucoup d'autres âmes. Donc, le Seigneur se sert de ces moments profonds. Et c'est un réconfort et une consolation en même temps pour Jésus. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, nous nous souvenons du pape Jean-Paul II, qui était tellement versé dans le Seigneur, dans les chemins de croix. Généralement, quand on méditait les chemins de croix qu'il faisait donc, au Colisée, on voyait comment il était transformé, transfiguré. Il était tellement uni à Jésus dans ce mystère de sa passion, de sa souffrance, qu'il était pratiquement un autre Jésus quand on le voyait. Une force de concentration absolue qui venait de ce qu'il était rempli pleinement, pleinement investi par Dieu. Et c'est pour nous l'occasion de comprendre que si nous entrons dans cette méditation régulière de la passion de Jésus, alors il y a en nous, frères et sœurs, quelque chose de divin qui s'installe. Oh, Jésus d'amour, il y a quelque chose de divin qui s'installe. Il y a quelque chose de divin qui s'installe en nous. Et en même temps, nous procurons une consolation forte à Jésus. Il dit, l'âme qui médite souvent ma passion me réconforte de différentes façons. Si durant ma passion, on me lia avec des cordes et des chaînes, l'âme qui me considère ainsi attachée et compatit avec moi me délie, donc on délie Dieu, et me rend la liberté. Si des hommes d'armes me méprisèrent, me crachèrent dessus et me déshonorèrent, l'âme compatissante me donne de l'estime, me lave de ses crachats et m'honore. Si mes bourreaux me dévêtirent et me flagellèrent, l'âme compatissante me guérit et m'habille. Si on me couronna d'épines, si on me traita comme un roi de plaisanterie, si on me remplit la bouche de fiel et si on me crucifia, l'âme qui considère avec compassion toutes ses souffrances me couronne de gloire, m'honore comme son roi, me remplit la bouche de douceur, me décloue de la croix et me fait ressusciter dans son cœur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Voyez ça, chers frères et sœurs bien-aimés. Nous apportons un soulagement, une consolation réelle à Jésus. Non pas qu'il ait besoin de cela pour être heureux, puisqu'il est Dieu, et qu'il a en lui substantiellement établi la béatitude. La béatitude le constitue fondamentalement. Et s'il souffre, il souffre pour consoler les âmes en souffrance. En fait, quand nous consolons Jésus, nous consolons le reste de personnes en souffrance, de l'humanité. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela le grand mystère. Ce sera la grande joie que nous avons de méditer la passion de Jésus. C'est que nous entrons dans la consolation de Jésus qui console l'humanité tout entière. Et nous empêchons aux souffrances de gagner du terrain. Et Jésus, dit qu'il se sent dédommagé de toutes les crasses qu'on lui a faites. Et il dit qu'il va donner des récompenses sur la terre comme au ciel. Il dit que à ceux qui méditeront sa passion, il donnera ses mérites. À ceux qui les méditeront, dit-il, je donnerai mes mérites comme si je souffrais la passion pendant ce temps qu'il les médite. Les effets que produisit ma passion quand je l'endurais et qu'elle peut produire à toute époque seront renouvelés dans les âmes qui méditeront sur ces œuvres selon la qualité de leur disposition intérieure. Il n'y a pas de récompense plus grande que celle-là qu'on puisse recevoir en cette vie terrestre. Il dit au paradis, je mettrai ces âmes en ma présence divine, devant ma face, et je les darderai de flèches d'amour et de contentements éternels. Et elles-mêmes enivrées de mon amour, me répondront en dardant mon cœur de toute la capacité d'amour qu'aura leur âme dans la béatitude céleste, ce qui constituera un doux enchantement pour tous les bienheureux du ciel. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, qu'il va darder les âmes de son amour. Elles seront enivrées de son amour. Et elles vont répondre en lui envoyant ce même amour d'une manière infinie. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela, mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Voilà notre grâce. Voilà notre joie. Voilà notre joie. Voilà notre réconfort. Voilà notre force. Et demandons à notre Seigneur de guérir notre cœur. Notre cœur ne croit pas en l'amour simplement parce qu'il a été blessé. Notre cœur ne croit pas que Dieu nous aime parce qu'il a été blessé de différentes manières. Les blessures d'enfance, les blessures de notre histoire, les blessures multiples que nous inflige aujourd'hui la vie et les blessures de notre péché. Voilà ce qui empêche le cœur de croire qu'il est aimé de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, demandons de tout notre cœur cette guérison à Jésus. Demandons à Jésus de guérir nos cœurs et de nous donner le baume de son amour. Oui, Jésus, nous t'en supplions, guéris nos cœurs, guéris.
Les mots
sont brisées.
Bien-aimés, vous écoutez la radio de notre communauté de paroisse, votre radio, la radio Notre-Dame de la Paix. Nous voulons remercier le Seigneur pour les grâces qu'il nous donne de vivre et de par ces temps que nous traversons. Et beaucoup témoignent qu'ils n'ont jamais été aussi proches du Seigneur que par ce temps de confinement. Et quelque part, comme nous l'avons dit, frères et sœurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et tout ceci pour que sa gloire revienne. Frères et sœurs, nous voulons dire un infini merci à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui travaillent à chercher le Seigneur. Nous voulons dire que Jésus est avec vous et avec nous, il nous l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la consommation des siècles, il restera, il sera avec nous. C'est notre foi, c'est notre conviction. Son règne viendra, frères et sœurs, et ni rien ni personne ne pourra l'empêcher de régner. C'est notre conviction, frères et sœurs. Je vous souhaite un très très bon appétit et ne quittez pas cette radio sans écouter ce morceau que je vous dédie, que vous ayez cette conviction et cette force que Jésus, frères et sœurs bien-aimés, va établir son règne et qu'il va venir régner. Et qu'il va venir régner dans nos cœurs, qu'il va venir établir sa gloire dans nos vies. Soyez bénis infiniment et que la très sainte Vierge Marie, notre Mère du Ciel, vous couvre de son manteau maternel et vous accorde des bénédictions que son Fils a préparées pour vous de toute éternité. que vous soyez participants de sa nature divine. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Je vous embrasse de tout cœur. Je vous dis tout mon amour de frère et de pasteur. Et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa tendresse. À cet après-midi, pour le chapelet médité à 15h30, nous essaierons, vu la qualité technique, de méditer avec les paroles de Jean-Paul II. Les paroles de Jean-Paul II, ça pourra vous aider. Nous entendrons sa voix dans la version ancienne du Notre Père, bien sûr, dont vous entendrez « Ne nous soumets pas à la tentation », vous comprendrez que c'est Jean-Paul II, ce n'était pas encore changé. Et puis, frères et sœurs, nous essaierons, nous faisons des essais, parce que la qualité du son avec le téléphone n'est pas toujours très bon selon les retours, et justement, pour ce qu'on écoute après, on n'entend pas beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'on va mettre cet enregistrement cet après-midi, pour essayer justement de prier avec Jean-Paul II en voyant ce que ça donne sur le plan technique. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs bien-aimés, et que le règne de Dieu arrive. Soyez bénis, je vous embrasse de tout cœur. À très bientôt, à très bientôt. Bye bye, Dieu vous bénisse et vous garde.
Oh, de même que ta gloire remplissait le temple. Que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Fais de ma vie ce palais où tu demeures, là où tout s'écrit gloire. Gloire. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Envahisse ce lieu. Ta voix est puissante, elle est majestueuse. Ouvre les écluses des cieux et descendre ta pluie. Nous voulons ton règne. Fais descendre ton règne. Que ton règne vienne. Quand ce lieu tout s'écrit gloire, gloire, gloire. Ta voix fait trembler le désert. Et que vienne ta vie, Jésus. Et vous l'entendrez. Soit brisé, que les captifs soient libérés, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, Jésus. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, envahis-nous de ta qui soupira après toi lorsque nous n'avons plus de mots. Oh, 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 oh. Ces nations ont besoin de toi. Nous te voulons.
selon Saint-Esprit de Dieu. Jésus, nos vies ont besoin de toi.
Que je suis, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton
le droit de louer. Mais ta musique, notre peine, c'est d'abord celle de ton amour. Chante en nous.
Tu es mon plus grand bien, tu es ma joie.